Le premier avait été comme brisé par le diable, et le second, Dieu le fait merveilleux, c'est la création que nous avons sous nos yeux. Et Dieu dit de cette création qu'elle était très bonne. Et Dieu réserve le chef-d'œuvre, on peut dire, de sa création pour le dernier jour, pour le vendredi, c'est l'homme et la femme, dans le chapitre premier. Dieu les bénit. Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, et Dieu les bénit. Adam et Ève sont là. Bon, le chapitre 2 n'est qu'une extension du verset 27, pour nous montrer comment il a procédé, on peut dire en deux étapes. Et cette création avec Adam et Ève est merveilleuse, et puis le chapitre 2 se termine par cette vision du premier couple humain, de l'épouse amenée à Adam, et dans ce couple, Dieu a un projet. C'est Christ et l'Assemblée, Christ et l'Église. Eh bien, celui qui avait brisé la création, maintenant brise le plan de Dieu. Non, le plan de Dieu, il ne peut pas briser le plan de Dieu, Christ et l'Assemblée, mais il brise l'image de ce plan. En insufflant dans le cœur d'Adam et Ève ce qui avait fait tomber très probablement une partie des anges, parce que c'était dans son cœur, vous serez comme Dieu. Et il veut couper l'homme de Dieu, et voilà encore le conflit entre Dieu et Satan, mais dont les hommes sont l'enjeu. La première fois, l'homme n'était pas là, c'était pas l'homme qui était l'enjeu, c'était la création qui a été ruinée par le diable, mais là, c'est le projet de Dieu, Christ et l'Assemblée, qui est ruiné par le diable. Et de nouveau, Dieu répond, parce que de toute façon, Dieu ne peut pas ne pas relever le défi. Dieu ne peut pas être vaincu par le diable. Et là, dans ce jardin, dans une situation qui paraissait désespérée, il promet un libérateur qui brisera cette puissance qui venait de les faire tomber, et la semence de la femme te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. Et je pense que ça a été un coup terrible pour Satan d'entendre ces paroles. Quoi ? Il aurait pu dire, cette femme que je viens de séduire, que je viens de tomber, de la semence de cette femme naîtra celui qui va me briser la tête ? Vous auriez imaginé que Dieu allait répondre de cette manière ? Oui, la semence de cette femme que tu viens de tomber, c'est elle qui te brisera la tête. C'est un conflit, mais Dieu ne peut pas être battu dans cette bataille. Il ne peut pas, Satan ne peut pas triompher, mais pourtant il semble qu'à certains moments, Satan triomphe, mais Dieu relève le défi. D'abord, il promet cette semence de la femme qui brisera la tête du serpent, et ensuite, il couvre Adam et Ève de vêtements, de peau, il leur donne une justice. Et ce conflit va continuer avec la descendance, parce que de toute façon, il est dit, je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. Il y a une inimitié. Et entre Dieu et Satan, mais aussi entre Satan et tous ceux qui ont la foi. Et c'est le combat aussi entre Caïn et Abel. Satan étant derrière la scène. Et ce conflit se continue dans toute l'Écriture. Et Satan n'oublie pas cette promesse qui a été faite dans le jardin. Et il va tout faire pour essayer de contrecarrer le plan de Dieu par rapport à cette semence. Et c'est ce frère Serge Tarasenko qui dit que Satan, c'est l'anti-dessein. Et je pense qu'il faut bien retenir cette pensée. Satan, c'est l'anti-dessein de Dieu. Il est contre nous parce qu'il est contre le dessein de Dieu, parce que nous faisons partie du dessein de Dieu. Et Satan va veiller à ce que, à essayer de contrecarrer ce plan pendant toute l'histoire du peuple juif. Et je pense même que l'antisémitisme, c'est une action de Satan contre le peuple juif à cause du plan de Dieu. Satan est derrière l'antisémitisme. Et une longue histoire, mais je ne prends que quelques exemples. Sous le règne d'Athalie, la reine Athalie, la fille de Jézabel, ces deux femmes terribles de l'Écriture, eh bien, Athalie a fait tuer tous les enfants mâles de la descendance de David, justement, pour essayer, et Satan est derrière Athalie, pour essayer de couper cette chaîne du Messie qui va venir, qui va nous libérer de la puissance de Satan. Et elle a fait tuer tous les enfants mâles de cette descendance, sauf un qui lui a échappé, le petit Joas. Et on peut dire qu'à ce moment-là, le conseil de Dieu, le plan de Dieu tient à un fil. Mais Dieu tient ce fil. Parce que, de toute façon, c'est pas possible que sa promesse ne s'exécute pas et que Satan triomphe. C'est pas possible. Mais ça tient à un fil avec le petit Joab, qui est protégé par le sacrificateur Jéhoïada et sa femme Jéhosheba. Et puis après, le temps continue, et quand le Seigneur Jésus arrive sur la scène de ce monde, Satan le sait, je crois que Satan sait que le Seigneur Jésus, le libérateur, est arrivé. Et par Hérode, il va essayer de... Il n'a pas pu faire qu'il n'arrive pas, mais il est arrivé, et par Hérode, il va essayer de tuer ce libérateur. Tous les enfants de Bethléem vont payer de cette terrible haine contre le plan de Dieu, contre le Seigneur Jésus qui est ce libérateur que Dieu avait promis dans le jardin. Et puis, donc le Seigneur fuit en Égypte, et dans ce conflit, dans ce livre des guerres de l'Éternel, il y a encore un épisode profondément émouvant, si nous savions le comprendre, c'est quand le diable en personne a rencontré le Seigneur Jésus au désert. Alors je ne sais pas, cela ne nous est pas dit, c'est un mystère, sous quelle forme le diable a affronté le Seigneur, on ne sait pas. Il n'est pas dit que c'était sous la forme d'un serpent, mais nous savons que c'est le diable en personne. Et cette rencontre, je l'appelle le choc frontal. Jusque-là, dans l'Ancien Testament, et puis même par Hérode, Satan avait agi par intermédiaire. Mais là, c'est le choc frontal. Et je pense que si Satan avait su vraiment à qui il avait affaire, il n'aurait jamais affronté le Seigneur Jésus. Je donne une image. Moi, je sais à peine taper quelques balles de tennis, mais il ne me viendrait jamais à l'idée de vouloir faire une partie contre Federer, par exemple. C'est pas la peine. C'est peine perdue. Je serais battu d'avance. Mais le diable aurait pu dire ça. Mais je pense qu'il était aveuglé aussi. Il aveugle les pensées des incrédules. Oui, c'est vrai. C'est un verset terrible de 2 Corinthiens 4. Mais il est aveuglé. Et c'est parce qu'il est aveuglé qu'il a osé affronter Jésus. Sinon, il ne l'aurait jamais fait. Ou alors, peut-être que ça vient aussi de son arrogance. Nous ne savons pas ce qu'il y a comme arrogance, comme haine, j'allais dire, dans le cœur du diable. Justement, il n'a pas de cœur. Eh bien, le conflit continue. Le Seigneur a triomphé au désert par la parole, et il est cet homme fort qui pille les biens de l'homme fort qu'il a lié au désert. Il pille ses biens, et il faut voir que chaque délivrance démoniaque, même guérison de cette femme qui était courbée par le diable, c'est l'homme fort qui pille les biens, un plus fort que lui, qui pille ses biens. C'est une bataille. Et Jésus est victorieux dans chacune de ces batailles. Et il y a, David est une image du Seigneur Jésus dans les évangiles qui va toujours de victoire en victoire. Et on a dit que David n'a jamais perdu une bataille. Et qu'il est une image du Seigneur Jésus qui n'a jamais perdu une bataille. Il avance toujours en territoire ennemi, mais Satan ne se tient pas pour vaincu. Il dresse la croix. Il dresse la croix. Et là aussi, le Seigneur ne se trompe pas sur le caractère de la croix. Il dit, c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. Satan était derrière les hommes qui ont lié le Seigneur, qui ont pris le Seigneur. Et les hommes ont crucifié le Seigneur et ont mis à mort le Seigneur. Il semblait que Satan avait triomphé dans cette guerre, dans ce livre des guerres de l'Éternel. Et je prends cette expression du psaume 24, l'Éternel est grand dans la bataille. La plus grande bataille de tous les temps, c'est la bataille de la croix. Et là où Dieu semblait impuissant, et Dieu a permis que les hommes mettent les mains sur son fils. Qu'est-ce qu'on penserait d'un Dieu qui se laisse crucifier, qui est impuissant? Eh bien, dans un profond mystère, c'est justement là que Dieu a triomphé en Jésus-Christ de toute la puissance du diable. C'est dit dans les Colossiens, il a produit ses principautés et ses autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Et ce triomphe de la croix, le triomphe de l'amour, s'est confirmé au matin de Pâques. C'est le triomphe de la vie sur la mort. Il ne faut pas oublier que Hébreux 2 nous dit que le diable a le pouvoir de la mort. Et le Seigneur Jésus a accepté de rentrer dans... Pour ainsi dire, il s'est placé sous ce pouvoir du diable pour en montrer la faiblesse. C'est comme quelqu'un qui se laisserait enfermer dans un édifice pour en montrer et sortirait de cet édifice. Et il en montrerait par conséquent la faiblesse de cet édifice. Et il se laisse enfermer pour montrer la faiblesse de cet édifice qu'il enferme. Quel triomphe au matin de Pâques. Voyez, mais je n'en finirai pas parce que ça serait jusqu'à l'Apocalypse que je devrais continuer ce livre des guerres de l'Éternel. Ces guerres de l'Éternel. Après, dans le livre des Actes, bon, c'est la persécution contre les chrétiens. Jésus n'est plus là, donc on ne peut plus le persécuter. On ne peut plus le faire souffrir, le mettre en croix, mais ce sont les chrétiens qu'on attaque, les empereurs romains qui enduisent de bitume les chrétiens pour en éclairer leur jardin, ou qui les jettent dans aux bêtes fauves. C'est toujours cette bataille de Satan contre Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne s'y trompe pas, parce que dans l'église à Smyrne, il est dit, le Seigneur avertit les fidèles, Satan jettera quelques-uns d'entre vous en prison. L'Esprit de Dieu arrache le masque. C'est bien les empereurs romains qui jetaient en prison, mais c'est à Satan qui était derrière. Ce verset est assez extraordinaire. Mais jusqu'à la dernière révolte, je suis obligé d'abréger, jusqu'à la dernière révolte, d'Apocalypse 21, et c'était extraordinaire ce passage après le millénium, après un temps merveilleux de prospérité pour la terre, et quel gouvernement y aura-t-il de meilleur que celui du Seigneur Jésus sur la terre? Il est dit que ils se levèrent nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alors, je vous lis quand même, on lit ensemble l'issue de ce conflit des guerres de l'Éternel au chapitre 20. Et quand les 1000 ans, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, et du feu descendit de la part de Dieu et les dévora, et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà le dernier épisode de ce grand livre des guerres de l'Éternel. Mais il faut quand même que je mentionne encore un livre beaucoup plus doux que celui-là. Dans le Malachie, ce sera l'avant-dernier livre, dans le livre de Malachie, un livre pour nos cœurs. Malachie 3, verset 16, verset 15. « Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux, ceux-mêmes qui pratiquent la méchanceté sont établis, même ils tentent Dieu et sont délivrés. Alors, ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel a été attentif et entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et pour ceux qui pensent à son nom. Ils seront à moi mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai. » Un livre de souvenirs. Nous sommes là dans une situation extrêmement pénible du peuple de Dieu. Il est revenu il y a quelques années de Babylone, mais l'état s'est dégradé. Et c'est tellement affaibli qu'ils sont inconscients de l'amour de Dieu. Et ils sont en plus insolents. Ils sont inconscients de leur état. Le livre de Malachie, on a dit que c'était le procès du formalisme. Il y a une forme, mais sans puissance. Il y a une pratique religieuse, mais qui est haïssable pour Dieu. Et ils ne craignent pas l'Éternel. S'ils font un service, c'est par obligation. Et au milieu de cet état de choses, il y a quelques croyants, et pas quelques chrétiens, on n'est pas encore à la période chrétienne, quelques croyants qui ont la foi et qui craignent Dieu, et ils parlent l'un à l'autre. De quoi pensez-vous qu'ils parlent l'un à l'autre? Mais très probablement du plus grand événement de l'histoire du monde qui va se passer, c'était l'arrivée du Messie, que les prophètes, dit Paul, qui se lisent chaque sabbat, avaient annoncé. En particulier Esaïe, mais Michée. Et ils parlent l'un à l'autre. De quoi parlons-nous l'un à l'autre? Et devant nous, il y a un grand événement aussi. C'est la venue du Seigneur, sa seconde venue. Et ils parlent l'un à l'autre. Et l'Éternel a été attentif et entendu un livre de souvenirs. Là aussi, Dieu n'a pas besoin d'un livre pour noter, pour se souvenir, mais c'est pour parler dans notre langage. Qu'il est précieux, ce livre du souvenir. Alors si aujourd'hui encore il y a deux ou trois croyants, nos rassemblements sont petits, et je sais ce que c'est qu'un petit rassemblement. Et je sais ce que c'est que de prier pour que le Seigneur envoie des familles. Je sais ce que c'est que de languir et de gémir pour solliciter l'action de Dieu et de patienter. Eh bien, dans notre petit nombre, deux ou trois, l'un à l'autre, il y a Dieu qui est attentif à nos petits rassemblements. Oui, c'est vrai qu'on voudrait qu'ils grossissent. Je ne suis pas du tout de ce genre de frères qui font ce que j'appelle le culte du petit nombre. Vous savez, le culte du petit nombre, il faut que nous soyons petits pour être fidèles. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est normal que nous croissions, que nous nous développions en spiritualité, en vitalité, que chacun apporte sa piété dans le rassemblement, d'accord, mais aussi en nombre. Mais bon, nous voulons être patients et espérer que nos rassemblements ne s'éteignent pas. En tout cas, une chose est sûre avec ce passage, c'est que Dieu est attentif au petit nombre. C'est très encourageant pour nos rassemblements. L'un à l'autre, il y en a peu. Et on va les retrouver au début de l'évangile de Luc. Il y a Siméon, Anne, Élisabeth et Zacharie, Joseph et Marie. Ils sont vraiment un petit nombre. Mais combien les yeux de Dieu sont sur eux. Il est dit dans un psaume, les yeux de l'Éternel sont sur les fils des hommes. Il voit les fils des hommes. Mais il est dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il y a une vision particulière de Dieu par rapport à ceux qui le craignent. Et si nous sommes de ce nombre-là, eh bien Dieu est attentif. Et il inscrit dans son livre une note. C'est encourageant ce passage, toujours encourageant. Surtout pour nos petits rassemblements. Et puis le dernier livre dans l'Apocalypse, On lit souvent ce passage, mais on ne fait pas toujours attention qu'il est parlé à plusieurs reprises d'un livre. Il faut que je m'arrête. Au chapitre 5, et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au dedans et sur le revers scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, Jean, je pleurais fort parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et puis après, il est aussi parlé, verset 9, il chante un cantique nouveau disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Et il est parlé encore dans le restant de ce chapitre de ce livre. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre d'Apocalypse 5 ? C'est le livre du gouvernement de Dieu pour la terre. Au chapitre 10, je crois, on va trouver un petit livre. Alors ça, c'est un peu plus restreint. C'est le livre du gouvernement de Dieu par rapport à Israël. Mais là, nous avons le livre du gouvernement de Dieu pour le monde. Avec les chapitres 2 et 3, nous avons l'histoire de l'Église qui se termine par l'enlèvement, qu'on peut voir au début du chapitre 4, par ce monde ici, et je te montrerai. Et puis les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse sont des chapitres charnières. Ce n'est pas encore l'éternité. On ne peut pas le présenter comme quelque chose d'éternel, parce que dans le chapitre 5, l'apôtre Jean pleure. Vous vous imaginez pas que dans l'éternité bienheureuse, on va pleurer. Non, ça veut dire que ce sont on a un coin du ciel qui s'ouvre, d'accord, mais par rapport à ce qui se passe sur la terre. On n'est pas encore dans l'état éternel, même pas dans le millénium, parce qu'il va y avoir le déroulement de tous ces chapitres 6 à 19, qui sont des chapitres de jugement, des chapitres terribles, justement, qui... La grande pensée de Dieu, c'est pas le jugement. Le jugement, c'est le passage obligé à cause de la rébellion de l'homme. La pensée finale de Dieu, la pensée de Dieu, après l'enlèvement de l'Église, la pensée de Dieu, c'est le règne de Jésus-Christ, chapitre 20. Mais les chapitres 6 à 19 sont des chapitres préparatoires. Comme je le disais, ces jugements sont un passage obligé à cause de cette rébellion pour préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la pensée de Dieu, c'est qu'il règne. Il faut qu'il règne. J'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Et après l'enlèvement de l'Église, nous savons qu'une énergie d'erreur sera envoyée dans le monde et ça sera un désordre épouvantable, encore plus qu'aujourd'hui. Au chapitre 6, on a des choses terribles. Ils s'égorgeront l'un l'autre. Enfin, il y a différentes scènes, il y aura une guerre économique, et la violence, les denrées vont monter en flèche, on le voit aussi. Bon, ça sera un désordre complet. Et devant ce désordre complet, on se dit, mais qui peut mettre de l'ordre? Qui peut ramener la justice, la paix, la joie dans le monde et pour la satisfaction du cœur de Dieu? Mais qui? Alors peut-être qu'à la veille des élections, on se dit aussi qui? Qui peut prendre le gouvernement de la France? Mais surtout, qui peut prendre le gouvernement du monde? Et quand Jean considère ça, il pleure. Parce que personne, dans les cieux, ni sur la terre, n'était capable de prendre le gouvernement du monde pour le plaisir et la joie de Dieu. Et le plaisir et la joie de Dieu, c'est la finalité de tout. Dieu a tout créé pour sa propre joie. Sa joie dans son peuple terrestre, je me réjouirai en lui, mais son peuple céleste aussi, et même la création. Dieu fait tout pour lui, par lui et pour lui, sont toutes choses pour lui, Nous n'avons pas tellement le droit de faire les choses pour nous, mais Dieu, oui. Et il les fait pour lui. Mais enfin, la scène est en désordre. Et elle le sera encore plus après l'enlèvement de l'Église, mais qui peut? Et voilà que se présente ce lion de la tribu de Judas, qui a vaincu. Et j'en ai parlé de ce lion qui a vaincu. Le lion, le roi des animaux, qui ne se détourne devant qui que ce soit. Seigneur dans les évangiles, qui ne se détourne devant qui que ce soit. Il affronte la puissance du diable. Et même, encore une fois, dans le mystère de la croix. Et dans le tombeau vide, quelle victoire! Le lion qui est de la tribu de Judas a vaincu, et c'est lui qui va prendre en main le gouvernement du monde pour la satisfaction et la joie du cœur de Dieu. Et après, on voit que ce lion, les sept sceaux de ce livre sont successivement ouverts, et le Seigneur est seul capable de prendre le gouvernement du monde. Et ça, c'est une pensée rassurante. C'est comme un secret. Je pourrais pas annoncer ça à des incroyants. Ils diraient, c'est de la folie. C'est de la folie. Oui, je mets tous mes suffrages pour Jésus-Christ. Les mettre sur la tête d'un homme, peut-être qu'il va, ou d'une femme, et ils feront ce qu'ils pourront pour gouverner la France, mais c'est Jésus-Christ, je vote pour lui. Ouais, ça, c'est le secret des croyants. Pour le moment encore, sans attendre après l'enlèvement de l'Église, le monde est en un désordre très grand, un désordre moral. Un désordre écologique, on voit bien, tout est perturbé, on va dans le mur au point de vue écologique. Pour ne dire qu'un chiffre qui m'a assez impressionné, si tous les habitants, le sociologue a dit, ça va poser des problèmes parce que en multipliant les partenaires tout le long de la vie, le résultat c'est que dans la vieillesse on est seul. Ben oui, personne ne vous accompagne dans la vieillesse. Vous êtes seul. Après avoir eu combien de partenaires? Non, c'est un grand désordre. Et encore une fois, c'est vraiment notre Seigneur Jésus qui va prendre en main ce désordre. Et certainement qu'il y aura, oui, il y aura un jugement terrible. Mais ça va déboucher sur ce règne de 1000 ans qui est caractérisé, comme tous les règnes, d'ailleurs toutes les formes de règne, par ces trois mots, justice, paix et joie. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de joie sans justice et paix. Ça, c'est un ordre très précis, justice, paix et joie. Et c'est déjà réalisé dans le croyant. Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Il y a une absence de conflit en nous. S'il y a ces trois choses, justice, paix et joie. Et ça sera dans le règne millénaire. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus, est seul capable. Et c'est touchant de voir, tu es digne de prendre le livre, c'est-à-dire le livre du gouvernement du monde, car tu as été immolé. Nous n'y pensons pas assez, ça. C'est parce qu'il a souffert, parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a triomphé, qu'il va pouvoir demain prendre le gouvernement du monde à la gloire de Dieu. Qu'il est grand, notre Seigneur. Alors nous avons vraiment à nous confier en lui.